7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, école de la deuxième chance pour des petits génies de l'informatique qui ont parfois loupé une marche dans le système classique. Autant dire qu'en France, ce sont des écoles vraiment pas comme les autres. Des lieux de formation au métier du web et du numérique, en général ouverts à tous, gratuits pour répondre à des besoins économiques qui ne cessent de croître et surtout pour rattraper le retard de la France dans le domaine du numérique. On va en parler avec nos invités. Alors, ils ont déjà mis les casques de radio. En principe, vous n'en avez pas besoin, hein, mais enfin. Erwan Kézard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 29 ans, vous êtes cofondateur de Simplon.co, une école de codage informatique fondée il y a 2 ans à Montreuil. Le nom de l'école vient de la station de métro où vous habitez.
Où on habitait au passé.
C'est ça.
C'était Silicon Simplon, le nom de code à la base, et comme souvent, le nom de code est devenu le vrai nom. Avec .co comme la communauté, voilà. La collaboration, tout ça.
C'est ça, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Mais enfin, en même temps, moi j'ai retrouvé que Simplon, c'était quand même le nom d'un col alpin dans les Alpes suisses à 2000 mètres d'altitude. Ben voilà, gravir des sommets grâce à l'économie numérique, c'est possible, vous y croyez, j'imagine.
Complètement, et c'est possible d'accélérer sa carrière. D'ailleurs, on enseigne une technologie qui s'appelle Rails, donc les rails. Donc il y a un peu cette symbolique avec le col du Simplon, par où passer l'Orient Express, tout ça.
Voilà, vous êtes particulièrement tourné vers l'Afrique aussi. Aujourd'hui, vous ouvrez une école similaire à Johannesburg, qui a ouvert exactement il y a 5 semaines. Et puis peut-être aussi bientôt à Bamako, on en parlera. Avec nous dans le studio également, Sébastien Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable technique et pédagogique à l'école 42, une école qui a été fondée également il y a 2 ans, entre autres par l'homme d'affaires Xavier Niel, le patron emblématique de Free. Pourquoi de Free ? Pourquoi 42 ?
Alors 42, ça vient du guide du retard intergalactique de Douglas Adams, c'est une œuvre de science-fiction, et c'est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste.
Très bien, bienvenue dans cet univers donc galaxique. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos invités. École de la deuxième chance pour des jeunes qui carburent vite, très vite devant un écran. Vos réactions et vos questions au 33 1 84 22 71 71. Sébastien Benoît, Erwan Kézard, peut-être je vais m'adresser d'abord à vous, Erwan Kézard. Quelle est la réflexion finalement qui a donné naissance à votre école de codage informatique, Simplon.co?
Alors il y a plusieurs constats. D'une part, dans l'équipe, on venait de ça, de créer des sites internet, de la création d'applications web, d'applications mobiles. On avait appris tout seul en se documentant sur internet, en s'auto-formant. Et on constatait qu'il y avait beaucoup de demandes, tout le temps des entreprises, des associations qui disaient « j'ai besoin d'un site, j'ai besoin d'une application », des gens qui voulaient nous recruter. Et on s'est dit, avec tout ce qu'il y a disponible sur internet, avec des technologies qui sont plus accessibles et plus facile à apprendre aujourd'hui, plus accessible en termes d'apprentissage, on peut certainement former des gens qui ne sont pas des ingénieurs Bac plus 5, et ce, rapidement, intensivement, en 6 mois. Mmh. On a vu qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui se posaient la même question, les bootcamps, donc là, c'était en 2012, des camps d'entraînement au développement web, et quand on a vu que ça marchait, on s'est dit...
Formation accélérée, donc.
Hein. Exactement. Mmh. Mais à part que c'était 12 000 $, et que c'était des profils qu'on croisait un petit peu souvent dans le métier, donc plutôt Bac plus 5, plutôt masculin, plutôt centre d'agglomération, et on s'est dit, faisons le gratuitement, intensivement, par la pratique, pour des profils qu'on croise pas souvent dans le métier. Donc des non-diplômés, des demandeurs d'emploi, avec un objectif de parité homme-femme, des personnes originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales. Bref, tout un tas de personnes qui ont toutes les aptitudes pour, mais qui ne se seraient pas forcément autorisées une carrière.
Leur point commun, c'est qu'ils sont jeunes, hein, en général.
Non, ça va de 18 à 52 ans chez nous. En Ardèche, par exemple, à Simplon, en Ardèche, la moyenne d'âge, c'est 35-37 ans.
Ouais. Sébastien Benoît, pour l'école 42.
Nous, c'est venu du constat que les entreprises aujourd'hui ont un énorme besoin d'informaticiens et n'en trouvent pas. Malgré pourtant une multitude de formations informatiques qui existent en France.
De bon niveau d'ailleurs.
De bon niveau, mais qui ont du mal à former des informaticiens opérationnels en entreprise, qui sont très théoriques. Alors que l'informatique, hélas, c'est très pratique, et de passage de la théorie à la pratique, c'est tout un monde.
C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'était de former des gars très agiles, des bidouilleurs.
Oui, mais au-delà de ça, il y a une façon de former à l'informatique. Je reviens sur l'histoire du tout théorique. L'informatique, c'est une science qui bouge à toute vitesse. La théorie et la pratique évoluent de même. Donc le fait de s'appuyer sur une liste de problèmes et de solutions à mettre en face périme très vite. Et pour nous, c'était pas la bonne façon d'inculquer l'informatique. On y reviendra, mais voilà. On
ouais. Alors j'ai dit des gars, vous m'avez pas repris d'ailleurs. Enfin, vous êtes deux garçons, c'est vrai, mais jeunes. Mais il y a évidemment beaucoup de filles. On en reparlera parce que ça a bougé. Le recrutement, ce qui est très original, c'est que vous recrutez sans condition de diplôme l'un et l'autre dans vos deux écoles respectives, Erwan Kaysar.
En effet, en fait, il y a deux choses. Premièrement, on va explicitement, activement, proactivement chercher des profils qu'on appelle peu représentés chez nous. C'est-à-dire qu'on dit clairement sur notre site priorité chez nous aux non-diplômés, aux femmes, c'est bête, mais aux personnes originaires de quartiers politiques de la ville, etc. Sachant que ça va quand même de bac moins 8 à bac plus 8 chez nous. On prend aussi quelques personnes.
Mais donc, vous affichez clairement une politique de discrimination positive.
Alors, en fait, étant donné qu'on communique en amont et qu'on attire explicitement ces profils, là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de discrimination positive. Et pour la sélection, ce qu'on fait, c'est que on dit pas besoin de diplôme, au contraire. Par contre, la première étape de candidature chez Simplon, ça consiste en partie à aller passer des étapes d'auto-apprentissage sur des sites comme Code Academy, où, en tant que débutant, je peux arriver sur un site, faire une étape, deux étapes, trois étapes, apprendre tout seul. On demande 15 étapes. Et d'en passer le plus possible pour prouver sa motivation et sa capacité à auto-apprendre. Et on se retrouve avec des gens qui passent 15, 16, 20, 30, 50, jusqu'à 84 étapes, ce qui représente 15 jours à 3 semaines de travail en autonomie. Et là, on se dit, la motivation est au rendez-vous. Et cette personne-là saura ce que c'est que le code et elle va pas arriver au bout du deuxième mois en se disant, en fait, c'était pas pour moi.
Donc, sans condition de diplôme, mais hyper sélectif.
Quand même
forcément,
sélectif.
Hein. Ouais. Ouais. Pour l'école 42, c'est encore pire.
C'est encore pire, je sais pas, mais on est clairement sur la motivation. On prend de 18 à 30 ans. On ne prend pas en dessous pour éviter de déscolariser des étudiants qui seraient dans un cursus classique et qui diraient, voilà, j'en ai marre d'aller au lycée, j'ai envie d'aller faire de l'informatique, faire de la programmation.
Pas du tout le message que vous prenez, bien sûr.
Voilà, on préfère qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leur diplôme, ce qu'ils peuvent avoir, et ensuite venir chez nous. On n'est pas pressé de les avoir. Et ça nous empêche pas de prendre des gens, voilà, qui sont en échec scolaire, mais on veut pas les prendre trop tôt pour éviter ça. Ensuite, on les sélectionne sur des épreuves sur notre site web. Ils vont faire des épreuves de logique, de mémoire, pour voir leur capacité à déduire.
Les tests sont très difficiles, au dire de certains journalistes qui ont testé.
Ils sont peut-être très difficiles pour les journalistes, peut-être que c'est pas le même métier.
Non, mais on a fait ce qu'on a pu, nous.
Non, ils sont calibrés pour repérer des gens qui sont faits pour cette logique de déduction, de un peu froide, on va dire, un peu moins, qui est un peu mathématique, mais ils sont pas excessivement durs. Bon, il y en a à peu près 25 000 là, cette année, qui ont fait les tests, sur lesquels on va en garder 3 000 pour venir faire.
Sur les 25 000, vous en gardez 3 000.
On prend les 3 000 meilleurs, là, voilà. Et on va les faire passer dans des épreuves de sélection tout l'été chez nous, à l'issue desquelles on en gardera un petit millier.
Oui, c'est ça. Donc, vous en gardez nettement moins de 10%. C'est une sélection qui est bien pire que la sélection des concours des grandes écoles.
Oui, mais on a pris tout le monde au départ.
Ah oui, on est bien d'accord.
Contrairement aux grandes écoles.
Ceux qui restent, justement, ce sont vraiment des profils très atypiques ou pas forcément?
Alors, objectivement, il y en a. On a des gens...
Racontez-nous quelques histoires, quelques parcours, comme ça, l'un et l'autre, dans vos écoles respectives, Simplon et École 42.
Je peux vous raconter l'histoire d'une étudiante que j'ai croisée un peu avant 42, mais dans des idées pareilles.
Avant qu'elle n'entre dans l'école, voulez dire.
Non, elle n'est pas passée par 42, mais on lui a administré un petit peu le même traitement. Aujourd'hui, elle bosse chez Free. On est très contents. Et il y a deux ans, elle vendait des hamsters, quoi, dans une animalerie. Donc, il y a des façons.
Voilà, elle est faite comment dans sa tête, cette fille là.
Elle est tout à fait normale. C'est une jeune fille mignonne, qui est sophistiquée, qui est vraiment pas du tout le cliché, on pourrait dire, de la fille informaticienne avec le cheveu gras et.
Oui, non, mais je disais dans sa tête. Je me doutais bien qu'à l'extérieur.
Pour vous dire que voilà, c'est pas, il y a pas de parcours forcément défini à l'avance d'une personne et d'un type.
Son talent, comment est-ce que vous pourriez le qualifier?
Son talent, c'est d'abord le goût, la motivation, l'envie, la persévérance d'aller au bout des choses, de faire bien les choses et de franchir des barrières. L'informatique, il n'y a rien d'insurmontable, mais par contre, il n'y a que des choses nouvelles. Il n'y a que des choses sur lesquelles on n'est pas forcément préparé, où on doit trouver sa propre solution. En général, quand on vous embauche pour développer, pour faire quelque chose, on vous embauche pour régler des problèmes qu'on n'a pas réglés à votre place. Et du coup, il n'y a pas un bouquin qui est en train de vous dire ça, tu vas le faire comme ça. Parce que s'il y avait une méthode magique pour le faire, on vous embaucherait pas. Donc il faut avoir ce du nez, de l'intuition et
une capacité à apprendre seul aussi, parce que ces gens-là qui arrivent, qui passent les tests avec succès de vos écoles, ils ont beaucoup appris seuls, non? Erwan Kazar.
En tout cas, chez nous, oui, chez 42 aussi, je pense. Mais après, on essaie quand même de, parce que vous parlez de profil atypique, et je parlais de mixité sociale, c'est-à-dire de bac moins 8 à bac plus 8. Le fait est que ce qu'on essaie de faire, enfin, chez Simplon, tout le monde ne sort pas développeur. C'est quelque chose que je veux préciser. Il y a des gens qui sortent formateurs pour débutants, animateurs pour enfants, couteau suisse numérique, j'ai envie de dire. Des gens qui savent à la fois faire un site sans forcément programmer, ou un site e-commerce pour un petit commerce sans programmer, ou des gens qui sauront dépanner tout type d'appareils ou faire des objets connectés. Donc, il y a vraiment des profils assez divers. Et en termes de profils atypiques, pour le coup, ben, je peux penser à plusieurs personnes chez nous. Il y a, par exemple, Ben, qui avait fait tout un tas de boulot, qui avait beaucoup voyagé, qui s'est même retrouvé pêcheur en Australie, à un moment qui n'avait pas de compétences, enfin pas de diplôme, et qui avait une réelle faculté à transmettre. Donc typiquement, c'est devenu l'un de nos formateurs. Il a même participé à une formation pour le comité exécutif d'Orange en début d'année. Il a vraiment, bon, il a le niveau technique et il a cette faculté à transmettre. Ou encore, on a quelqu'un qui a fait l'armée, par exemple, chez nous, et à Simplon Marseille aussi, qui installait les réseaux informatiques sur le champ de bataille à l'époque, ou un autre profil. Ben, je pense par exemple, on a des personnes qui sont réfugiées politiques, qui pour le coup ont deux fois plus d'énergie pour réussir et se trouver une place à la fois professionnelle et dans la société. Ou encore une personne qui avait fait le HESS et qui n'était pas particulièrement développeuse dans l'âme.
L'école des hautes études en sciences sociales, donc là plutôt très intello, on va dire.
Exactement. Et ce qu'on aime bien justement, c'est quand des personnes qui n'ont pas le brevet des collèges arrivent à pair programmer, à programmer à deux, à bidouiller à deux.
Avec quelqu'un qui est à bac plus 6 ou 7, c'est ça.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, on a des élèves d'HEC qui sont venus se faire former l'année dernière par les Simploniens. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on refasse.
Question sur Twitter d'Ismaël. L'école numérique, vos écoles respectives, sont-elles ouvertes aux étrangers vivant dans d'autres pays ou pour le moment vous recrutez essentiellement sur place hein? Pour l'école 42, alors, Sébastien Benoît.
Nous, c'est ouvert à tout le monde, mais par contre, ça se passe physiquement à Paris. Donc, mais il n'y a pas de souci, effectivement, pour venir de l'étranger.
Et pour vous, Erwan Kézard?
J'ai envie de dire, il y a trois réponses. Premièrement, pour faire Simplon en présentiel en France, tant qu'on est en règle, on va dire, avec un titre de séjour ou autre, on peut tout à fait faire Simplon. Deuxièmement, on a une formation à distance qui est créée par les élèves de Simplon. Donc, c'est une formation payante, c'est une partie du modèle économique, mais pour des personnes qui n'auraient pas les sous, on peut tout à fait ouvrir des accès gratuits, donc avec les Simploniens qui aident en face et qui créent les contenus. Et troisièmement, Simplon se déploie aussi à l'international, donc pour l'instant on est à Simplon Johannesburg avec SAP, mais il y a aussi Simplon Bamako qui va bientôt ouvrir.
Donc, et on va en parler bien évidemment. Vous nous appelez pour poser toutes vos questions, si vous êtes évidemment, si vous flairez des talents et si vous avez le sentiment que vous soyez intéressé par ces formations, 33 1 84 22 71 71, école de la deuxième chance pour petits génies du numérique.
Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, I would like to thank you all for joining us this afternoon for the defense of our latest thesis. We would like to take this opportunity to set the record straight and present a new formula. Algorithmic in its execution.
Biochemical equation discovered by a process of elimination. Patient identifies classification of analysis. Panelists got struck by paralysis. And as of our most recent information, causality is still inconclusive. Investigation making some degree of headway through particle acceleration. Deviation is apparent in relation to the phase of rotation in the hydron, the Geiger, hydron collider. Schematic graphics are attached in the appendix, which lends itself to further expo. Turn the page 53 and comb through the work of Dr. Siemens on plasticity and foams. Do note, no quotes on the flyaway. High dose of the isotope spotted in a space-time cluster with projected arc trajectory that indicates collision is a strong possibility. This just in, apparently the crucial core reactor has been sabotaged. Suspect the culprits are a crew of scratch bandits in the quantum department. No within the field to be algorithmic with the execution.
Algorithmic with the execution.
Algorithmic with the execution to keep the universe in unison.
Strict schooling with the chalk finger. Tip lock picking knowledge for y'all, the thought giver. Palm grip hard on a Darwin's origin. The species about to hit the porcelain. Dark
Kenyan, reptilian, miracle compound, bar sound. You feel it when they blow up like helium, a silicon rest, or the beautiful cosmos.
C'est très bon, Scratch Bandy Crew, algorithmique chez 7 milliards de voisins sur RFI. C'est le choix de Boris Vichitz qui réalise l'émission cette semaine. Nous parlons de ces écoles de la deuxième chance pour des filles et des garçons vraiment très doués devant les écrans d'informatique. Vous nous racontiez tout à l'heure, Sébastien Benoît et Erwan Kézard, vous êtes de deux écoles respectivement, école 42 et puis Simplon.co, des écoles d'informatique, mais vraiment très différentes de ce qu'on entend par école d'informatique d'habitude, que l'on intègre après le baccalauréat avec ses bulletins scolaires, etc. Là, c'est ouvert à tous. Évidemment, il faut beaucoup travailler. C'est très sélectif. Il faut vraiment des jeunes, on a bien compris, enfin je dis des jeunes et des moins jeunes, mais ils sont très en prise quand même aussi avec la vie réelle. Ils ont des parcours vraiment très très atypiques. Et bien évidemment, vous pouvez nous appeler où vous soyez dans le monde si vous avez envie de dialoguer avec nos deux invités, 33 1 84 22 71 71. Les besoins des économies dans le monde sont énormes. On a besoin d'informaticiens très doués aujourd'hui pour développer de nouvelles applications sur les smartphones, mais pas seulement évidemment. Il y a de très nombreux métiers. On accueille Oumar qui est en N'Djamena au Tchad. Bonjour Oumar.
Oui, bonjour Emmanuel.
Oumar, alors vous êtes vous avez 22 ans, vous êtes en terminale N'Djamena, c'est bien ça?
Oui, oui.
Vous n'avez pas suivi de formation en informatique et pourtant vous êtes tout le temps en train de bidouiller devant un ordinateur à la maison, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, racontez-nous un peu votre passion.
Oui, moi c'est, je vais pas dire que c'est après la médiocrité scolaire, on peut se lancer grâce à l'évolution de l'informatique, telle que moi, c'est grâce à des ordinateurs à la maison, de mes grands et de mes frères. J'ai tapoté et puis j'ai commencé à apprendre l'informatique très facilement. Alors que en ce temps, j'étais encore en première.
Ouais.
J'ai commencé maintenant à constituer des logos et de faire des designs.
Ouais.
Les maquettes même, j'ai fait des conceptions normalement. Et grâce à ça, j'ai fourni mes besoins scolaires et d'autres grâce à l'informatique.
Mmh.
Et j'ai même aussi des exemples palpables, tels que prenons l'exemple comme j'ai un voisin qui a fait venir son frère depuis le village.
Ouais.
Et maintenant, son frère aussi s'est lancé très vite dans le business informatique.
Ouais.
Et on était même des amis. On s'est transformé ouais. des messages informatiques.
Donc, votre camarade qui arrive du village, comme vous dites, il a découvert l'informatique il y a très peu de temps.
Oui, c'est là, 7 mois, je peux dire encore, 7 mois.
C'est-à-dire, il y a 7 mois, il n'avait jamais vu un ordinateur, en gros.
Oui, il a jamais vu. Tout ça grâce à son grand frère qui avait un cybercafé.
Un cybercafé,
oui. Oui, mmh. Et il lui a installé là comme un photocopier, il photocopie les papiers.
Mmh.
Et après, il s'est lancé, et puis ça va. Maintenant, alors qu'il n'a même pas été à l'école,
et
il
alors,
a fait part de tout ça.
C'est ça, oui, j'ai bien compris. Vous êtes vraiment, et vous aussi, vous êtes autodidacte. Vous avez dit au standard, vous apprenez en imitant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous arrivez à faire? Vous nous dites que vous faites des logos, donc vous faites un peu du design hein, sur Internet. Est-ce que vous arrivez à créer des sites Internet ou pas encore?
Bon. J'ai essayé de créer des sites internet sur les internets, mais j'ai pas pu quand même tout finir. Mais j'ai pas y arriver comme et puis faire d'autres choses, j'ai pas y arriver.
Aujourd'hui, vous avez le sentiment, Oumar, qu'il y a pas d'endroit où vous pourriez apprendre tout ce qui vous reste à apprendre en informatique.
Bon, il y a plusieurs endroits d'apprendre, mais comme vous voyez. Et ici, il faut avoir des moyens pour... Sinon, il y a plusieurs formations, mais il faut avoir des moyens pour se lancer et apprendre tout ça.
Est-ce que dans les cybercafés, il y a des petites pépinières comme ça de jeunes qui se retrouvent pour essayer de créer des choses, pour essayer d'apprendre par eux-mêmes?
Oui, hein.
Oumar?
Oui.
Oui, je vous posais la question. Est-ce qu'il y a des pépinières qui démarrent dans des cybercafés entre jeunes?
Oui, il y a des pépinières qui se démarrent dans les cybercafés. Mais tellement les coûts sont très durs.
Très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Oumar. On reste bien sûr sur ce sujet. Nous parlons de ces jeunes qui ont envie d'apprendre l'informatique, avec des écoles qui naissent en France, qui sont de plus en plus nombreuses, mais aussi avec des projets pour le continent africain. On en reparle. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 60.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, école de la deuxième chance aujourd'hui pour jeunes petits prodiges de l'informatique, génération XY qui pige au quart de tour les coulisses des sites internet, des applications pour smartphone, qui imagine loin et surtout qui apprend vite, entre autres le codage informatique, évidemment indispensable pour entrer dans les métiers du web. On en discute avec vous, Erwan Kézar, vous êtes cofondateur de simplon.co, pardon, vous savez c'est l'habitude, hein, une école de codage informatique fondée il y a 2 ans à Montreuil. Alors là, ce sont des formations accélérées, hein, donc des, presque des camps d'entraînement pour reprendre l'origine du concept à l'américaine. 6 mois d'informatique intensif et puis ensuite on parlera de l'insertion professionnelle de ces jeunes. Sébastien Benoît, vous êtes responsable technique et pédagogique à l'école 42 qui est à Paris, où vous avez combien d'étudiants maintenant d'ailleurs, formés sur 3 ans?
Pour l'instant, comme on a 2 ans, on a 2000 étudiants et puis on va passer à 3000 cette année.
C'est ça. Et chez vous, à simplon.com, combien d'étudiants sur les deux, depuis 2 ans là,
qui ont été formés ou qui sont en cours de formation, en France, là, ou à l'étranger? Ouais. Une centaine.
Voilà. Vous pouvez bien sûr nous questionner, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71 sur ce concept finalement de jeunes doués qui empruntent des raccourcis, soit qui ne réussit pas à l'école, soit qui est éjecté de l'école aussi pour des raisons financières. Ça peut être le cas sur le continent africain. On entendait là, vous avez entendu tous les deux, notre auditeur qui nous appelait du chat, qui dit, moi j'ai appris tout seul, ça a commencé au cyber avec un ami qui est arrivé il y a 7 mois du village, qui a découvert un ordinateur, qui avait jamais vu ça de sa vie, et ça va très vite finalement. Il commence à bidouiller, il commence à designer sur internet avec des logos, des choses comme ça. Il commence même à créer des sites internet. Vous souhaitiez, donner votre avis là-dessus, Sébastien Benoît.
Oui, c'est vraiment important de travailler en groupe. Nous, on constate ça tous les jours. C'est l'intelligence collective qui se crée, qui permet d'avoir du retour sur ces tests. On essaye, on bidouille, on teste, ça marche pas. Et d'avoir le retour vis-à-vis des autres autour de soi est hyper important, parce qu'on sait si on avance dans la bonne direction ou pas. Et puis quand on est bloqué, le fait d'en discuter, si on est trois fois plus intelligent que tout seul, on a trois fois plus d'idées, trois fois plus de pistes à explorer, et ça change la vie. Nous les étudiants, on les fait travailler exclusivement dans l'école. Il n'y a pas de devoirs à faire à la maison, il n'y a que des devoirs à faire à l'école, que des projets, et on constate vraiment une grosse différence entre l'étudiant qui essaye de travailler depuis chez lui et celui qui travaille avec ses copains.
Entendait donc ce jeune tout à l'heure qui nous appelait de N'Djamena, là aussi un jeune qui a vraiment envie de se lancer dans l'informatique, d'en faire un métier. Trop peu de formation encore à l'heure actuelle, surtout comme il le disait lui-même, quand on a fait une scolarité finalement qui n'a rien de transcendant, voire une scolarité médiocre parfois, ce qui n'empêche pas les talents. Vous nous avez raconté quelques parcours avec des jeunes qui sont tout à fait hors normes. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un enseignant très classique pour le coup, ancien professeur de littérature en collège lycée. Bonjour Gérard, vous êtes à Cotonou au Bénin.
Bonjour Emmanuel, j'ai un souvenir qui me revient.
Oui, nous vous écoutons Gérard, vous souhaitiez justement nous donner votre point de vue. Alors vous êtes plutôt de la génération qui a grandi sans ordinateur, je crois.
Oui, sans ordinateur, on se débrouillait, nous on s'intéressait à autre chose. Mais moi mon souvenir qui me revient, c'était une fois, j'étais professeur de littérature, et j'avais un pépin pour créer ma boîte, même je ne savais pas comment m'y faire, et à la fin du coup...
Votre boîte mail, vous voulez dire?
Une question comme ça. Pardon?
Vous voulez dire votre boîte mail?
Voilà. Ma boîte mail, oui. Et donc, j'ai posé la question à savoir si quelqu'un d'entre mes élèves qui avait entre 10 et 13 ans, s'ils avaient quelqu'un qui pouvait m'aider. Et tous les élèves ont pointé du doigt un élève qui était assis derrière. Ils m'ont dit, c'est lui, il peut le faire. C'est lui le génie de la classe. Alors que cet élève-là, dans ma matière, il ne fait pas partie des plus brillants, entre guillemets, en fait. Et donc, je me suis approché de lui et on est devenu très potes. Et c'est lui qui m'a vraiment initié dans tout ce que je fais aujourd'hui, comme gestion de ma boîte mail, des réseaux sociaux. En fait, c'est lui.
Il a quel âge, ce garçon, donc?
Il a, je crois, 11 ans au maximum 12 ans, il me semble, à l'époque. Et il y a une semaine de cela, puisque j'ai un travail à faire à l'Institut français de Cotonou, j'ai une lecture spectacle à faire. Et c'est un jeune encore qui m'aide maintenant à faire, par exemple, la com sur les réseaux sociaux, il m'a fait l'affiche. Et c'est en un clin qu'il a réussi tout ça. Et moi, je suis surpris par leur intuition, leur façon de comprendre, leur logique mathématique. C'est-à-dire, je me demande si les enfants n'ont pas peut-être une logique beaucoup plus claire par rapport à nous, parce qu'ils comprennent tout de suite, ils vont à l'essentiel, etc. Et je me dis, vraiment, oui.
Oui, alors attendez, je crois que nos invités veulent réagir là-dessus, parce que vous soulevez des questions intéressantes.
Oui, pour commencer, bonjour monsieur. Déjà, ce jeune homme, on peut lui ouvrir un accès gratuit à notre formation à distance, parce que quand on a cette envie-là, ce talent-là, il faut le développer. Mais en revanche, je mettrai juste un point de vigilance sur la notion de génie, de prodige. Souvent, on se dit ça. Alors que, par exemple, un enfant qui va s'intéresser, je sais pas, à la poésie à 8-9 ans, on va pas dire que c'est un prodige, on va dire qu'il est intéressé par la poésie. La programmation, l'informatique, même si ça peut faire peur, bien sûr, il y a des génies comme dans tout. Mais parfois, le fait d'être attiré par ça, ça veut pas forcément, il y a le mythe du petit génie de l'informatique qui d'une part peut faire mettre trop d'espoir sur des gens et un peu leur mettre la pression, et d'autre part en bloquer d'autres qui se disent ah non moi je suis pas un génie, ça me fait peur. Et pour conclure aussi là-dessus sur l'âge, en fait on a une petite expérience maintenant sur l'enseignement de la programmation pour les enfants, donc à partir de 7 ans jusqu'à 13 ans, et il y a tout un tas de logiciels très accessibles comme Scratch, qui est un logiciel du MIT qui permet de programmer des petits jeux sans écrire de code, c'est très visuel, mais en programmant. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est gratuit. Et Open Classroom aussi, c'est une plateforme gratuite où on peut apprendre la programmation en codant.
On va mettre tous ces liens, bien évidemment, à la fois sur Facebook, sur Twitter et puis sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. N'hésitez pas à vous connecter. Merci beaucoup Gérard de nous avoir appelé. On a une question de Johanna sur Twitter qui évidemment pose une question intelligente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le potentiel de ces nouvelles formations pour les jeunes? Alors d'abord, pour l'économie en général, quels sont les besoins, quels sont les métiers qui sont recherchés, quels que soient les continents à la limite hein. À l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bon, les métiers, ils sont très nombreux, mais notamment, on a une catégorie de métiers qui est assez délaissée, c'est la catégorie intermédiaire. On va avoir des développeurs web, des intégrateurs, des gens qui sont pas ingénieurs, qui sont pas en train de tirer le projet, de définir les contours du projet, mais qui sont les équipes qui vont réaliser ces projets. Et on a un petit décalage entre les écoles d'ingénieurs qui vont former des chefs de projet, des managers très bons, et à côté de ça, des formations qui souvent vont être assez incomplètes en informatique ou trop théoriques et qui ne vont former moins que des développeurs qui n'arriveront pas à intégrer, à faire les pages, à faire le développement du logiciel, de l'application, par manque d'expérience, par manque de connaissances. Voilà. Donc on a, au milieu de ça, besoin de gens qui sont compétents dans des domaines précis et qui sont capables de réaliser chaque partie des applications, des sites web.
En termes d'emploi, si on prend uniquement, par exemple, le marché de l'emploi en France.
Alors, pour le coup, bon, il y a des chiffres comme ceux du Syntec Numérique, qui est Fédération d'entreprises du numérique, qui parle de, je crois, 40 000 emplois à pourvoir dans le domaine de la technique et du numérique.
Bon, moi, j'ai vu 10 000 postes de développeurs 10 000, sont créés chaque année en France, par exemple.
Oui, voilà, c'est ça. Avec c'est actuellement 40 à 80 000, je sais plus. Mais en tout cas, pour le coup, Sébastien a très bien décrit, à mon avis, la partie artisanat numérique, le développement et tout. Et nous, ce sur quoi on est en train de chercher, d'investiguer, c'est autour de tous ces besoins qui ne font pas toujours l'objet d'une demande chez des TPE-PME ou dans des collèges ou chez des collectivités locales, de couteaux suisses numériques qui maîtrisent un peu la programmation mais qui maîtrisent surtout tout un tas d'autres outils. Et là-dedans, c'est tout un pan du numérique, tout un pan de l'informatique qu'on néglige un peu mais qui risque vraiment être pourvoyeur d'emploi dans les prochaines années.
C'est ça. Bon, donc faut quand même pas rêver, tout le monde va pas devenir le super créateur de la super application pour smartphone demain.
C'est pas sûr non plus, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que là on travaille sur une gamme d'âge et de on va dire de fraîcheur, parce que ce qu'on évoquait là sur les enfants ont une super capacité à faire de la pensée disruptive, à aller vers des choses où on les a pas préformatées. C'est-à-dire que quand on fait la même chose chez les adultes, ils sont déjà beaucoup plus cadrés et plus ils ont moins de facilité à sortir des concepts qu'on leur a déjà inculqués. Les enfants le font très bien et les jeunes encore à 18-20 ans vont être très capables d'aller nous inventer des choses, d'aller inventer une appli qui est plutôt fraîche, plutôt nouvelle, qui va être innovante, beaucoup plus que des gens qui vont avoir 30, 40 ans. Bill Gates et compagnie se sont pas faits à 30 ans, ils se sont faits à 18 ans, bidouillant dans leur garage, justement parce qu'ils sont allés à l'encontre de ce que tout le monde faisait. Ils ont pris des chemins de travers, et c'est ça qui leur a réussi. Donc, on pense vraiment que c'est dans ces jeunes-là qu'on va trouver les talents de demain.
Et c'est un vrai levier d'innovation, mais juste toute petite pointe de vigilance aussi sur lequel on communique pas mal en ce moment, c'est attention au mythe tous entrepreneurs rockstar, tous Mark Zuckerberg. Et là-dessus, voilà, être salarié, c'est très bien et c'est un très bon début de carrière. Mais en effet, il y a une plasticité intellectuelle et un regard neuf qui est un vrai levier chez les jeunes pour trouver de nouvelles idées.
Ouais, enfin, ceci à l'école 42, vous souhaitez clairement former des gens qui vont monter leur boîte aussi. Enfin, l'objectif, je sais plus, dans votre plaquette de communication, c'est qu'il y ait cinq fabuleuses boîtes qui
bien
sortent
sûr.
Tous les.
Bien sûr, mais on sait aussi que c'est pas les 1000 qu'on va former chaque année qui vont faire ça. Il y a une question de tempérament, de personnalité pour.
Bien au-delà des capacités techniques en informatique, bien évidemment.
Bien
c'est
au-delà,
beaucoup
oui,
plus
oui,
dans
oui.
La façon de se projeter dans la vie. Juste pour terminer, la question de Johanna sur Twitter qui évidemment voudrait en savoir plus sur les nouvelles formations pour les jeunes sur le continent africain. Si vous nous écoutez, Johanna, si vous n'êtes pas seulement sur Twitter, nous sommes en ligne avec Andrei Vladescu-Holt à Johannesburg en Afrique du Sud. Bonjour Andrei.
Bonjour.
Andrei, vous êtes au téléphone avec nous parce que Simplon en Afrique du Sud, Simplon.co, l'école dont on parle à Montreuil, ça vient de démarrer il y a 5 semaines en Afrique du Sud avec une vingtaine d'étudiants. Alors, ils sont plutôt à Bac plus 2 en général, c'est à peu près ça?
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils ont, l'équivalent du Bac. Ils ont 2 années de formation avec une étiquette IT, mais pas nécessairement, c'est pas des formations ingénieurs nécessairement, donc ils ont peut-être quelques connaissances sur quelques logiciels spécialisés, ils ont peut-être un petit peu de programmation, la plupart ont un bac plus 2. Et on a aussi quelques personnes qui sortent juste du bac.
Ouais, ces étudiants, socialement, ils viennent d'où?
Je dirais 25% sont plutôt classe, ce qu'on appellerait classe moyenne. Il y a 75% de personnes, des étudiants qui viennent de township. Donc c'est des quartiers plutôt pauvres. Pour ceux qui connaissent Johannesburg, c'est le célèbre Soweto. Donc on a une grosse partie qui viennent de Soweto.
Qui ont appris surtout par eux-mêmes en fait l'informatique au départ.
Étonnamment, ils ont plutôt une bonne maîtrise des outils, avec quelques exceptions, mais en général, ils ont une bonne maîtrise de l'outil, même si, encore une fois, pour prendre quelques chiffres, je pense qu'il y a peut-être sur 20 personnes, sur 20 étudiants, il doit y avoir 3 ou 4 qui ont un ordinateur personnel.
Ah, donc, seulement 3 ou 4 qui ont un ordinateur personnel en Afrique du Sud, et sur cette vingtaine d'étudiants. C'est étonnant. Alors cette formation est gratuite, puisque vous êtes là sponsorisé par SAP, éditeur de logiciels. Pourquoi vous avez monté là? Parce que je sais que vous avez d'autres projets, notamment à Bamako et tout. Mais pourquoi la première école en Afrique du Sud?
Cette initiative sort un peu d'une autre initiative qu'on a eue toujours en partenariat avec SAP, qui s'appelle Africa Code Week. Africa Code Week, qui est un événement qu'on organise entre le 1er et le 10 octobre sur des populations sur les plus jeunes, de 7-14 ans. C'est un événement qui est inspiré de l'Europe, Europe Code Week.
Il y a du potentiel. On va peut-être en dire un mot aussi avec vous et Erwan Kezar sur cette Africa Code Week qui aura lieu en octobre prochain. Donc là, beaucoup plus ciblé vraiment sur des très jeunes. Et puis on l'entendait tout à l'heure avec des témoignages de nos auditeurs, ça peut commencer très jeune le goût pour la bidouille informatique. 11 pays africains, 20 000 jeunes de 8 à 24 ans, c'est ça. Il y aura l'Afrique du Sud, il y aura l'Angola, le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Togo, la Tunisie. Comment ça va se passer? À quoi ça va servir cette Africa Code Week? Week.
Alors en gros, les objectifs de l'Africa Code Week, c'est donner accès aux générations futures à toutes ces technologies.
J'aime bien parce qu'il allume son smartphone pour trouver toutes ses notes.
Oui, parce qu'André, d'ailleurs, qui est cofondateur de Simplon, je dois le préciser, aurait peut-être pu mieux répondre que moi, mais aussi c'est contribuer activement à l'essor de la scène numérique africaine, donc que ce soit matériellement ou par l'accessibilité à ses usages. Et en gros, ça c'est une initiative donc en partenariat avec SAP, mais aussi sous le haut patronage d'Axel Lemaire et d'un Yves Girardin. Et c'est une semaine dans 11 pays avec 1000 ateliers et 20 000 enfants, avec d'anciens simploniens, notamment Roger par exemple.
Qui vont se retrouver physiquement dans ces pays-là.
Ouais, par exemple, Roger, l'ancien simplonien, va tourner dans les pays d'Afrique, un peu comme le Ampion Bus pour les startups, voilà, pour donner des ateliers pour enfants, pour adultes d'ailleurs, pas que pour enfants, c'est un peu pour tout le monde. Mmh. Et voilà.
Erwan Kézar, Andrei Vladescu-Holt, plutôt, je voudrais que vous nous disiez juste en quelques mots, là, en Afrique du Sud, quels sont les débouchés professionnels pour ces jeunes?
Alors les débouchés, il y en a, c'est pas nécessairement très différent de ce qui se passe en France. Il y a les mêmes besoins ici qu'en France, avec le désavantage ici que la plupart de la population, donc les jeunes qui participent à la formation actuellement, sont plutôt typiques d'une grosse partie de la population en Afrique du Sud. Donc il y a le même besoin d'avoir des formations vraiment précise sur du savoir-faire. Mmh. Donc c'est les objets de cette formation-là. Donc ça peut être encore une fois, comme c'était déjà cité, web designer,
etc. aussi.
Voilà, surtout pas des applications mobiles, parce que le mobile, c'est un marché énorme ici. Encore une fois, donc si je vous disais, la plupart n'ont pas d'ordinateur personnel, mais ils ont tous des smartphones.
Voilà.
Ils peuvent pas se permettre de se payer des plans data pour pouvoir vraiment utiliser Internet pleinement pour l'instant, mais ça va venir dans les années qui suivent.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Par contre, évidemment, les lignes téléphoniques, c'est pas toujours la qualité maximum. Merci infiniment, André Vladescu-Holt, à Johannesburg, donc pour Simplon.co en Afrique du Sud. Vous êtes aussi le cofondateur de l'école qui existe en France. Le smartphone dans les pays en développement, le fait que effectivement une population de plus en plus large possède un smartphone, même si ces gens-là n'ont pas forcément un ordinateur à la maison, ça change aussi un peu la façon de concevoir l'informatique, de concevoir les métiers du web ou pas? Je vous pose la question peut-être à tous les deux.
C'est pas très simple comme question, mais forcément pour les multinationales, ça implique de s'occuper de savoir comment les pays émergents vont accéder au web via leurs interfaces dont ils ont à disposition. Donc si on est dans un pays effectivement on n'a pas d'ordinateur fixe portable à la maison, tout le monde est sur téléphone portable avec du réseau qui est pas forcément très simple à obtenir. Facebook a fait une version light qui est disponible que dans les pays émergents de son application, où vous avez les photos tout qui est en basse qualité, mais qui permet de ne pas consommer trop de réseau et qui demande des téléphones beaucoup moins puissants que l'application Facebook qu'on a sur nos téléphones, qui elle est hyper gourmande par exemple.
C'est sûr, et nous on a toujours un peu notre biais, pour le coup innovation frugale, c'est-à-dire faire beaucoup avec très peu de moyens et s'adapter aux moyens du bord et du terrain. Mais aussi ce qui nous intéresse de suivre, c'est de voir un peu toutes les applications à dimension sociale et solidaire qu'il peut y avoir dans les pays subsahariens. Notamment, par exemple, une application de consultation médicale par SMS pour des gens qui n'auraient pas accès, d'une part, à des soins ou d'autre part, à Internet. Donc, par le SMS, c'est vrai que ce sont des technologies qu'il faut regarder de très près. Au-delà d'entreprises qui cherchent des marchés, il y a aussi tout un moyen. C'est un peu le biais Simplon, ça.
De en tout faire cas, vous déclenchez des appétits. Hein. Il y a pas mal de gens qui voudraient en savoir plus. Ismaïla, qui est à Dakar, qui nous pose la question. Elle voudrait en savoir plus en fait sur les formations en ligne, notamment celles dont vous parliez pour Simplon.co. Mm-hmm. On y répond juste après Minority chez 7 milliards de voisins. Et vous pouvez nous appeler. You got rules telling me what to do. Is there anybody checking up on you? Freedom of mind for the freedom of truth. Could you be guilty for being a little bit different from the rest? Come on, come on, come on now, people. Put yourself to the test. Every minority has a priority. We wanna be equally free. Let me hate me, discriminate me.
in the surf, but I don't deserve to live a free life.
Minority, c'est Shishnani. Je ne sais pas si je vais arriver à le prononcer en cette fin de semaine. Shishani and Dub Colors chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle de ces jeunes très doués en informatique, qui ont surtout très envie, qui n'ont pas toujours été forcément les plus heureux à l'école dans l'enseignement classique. Et nous répondons à la question justement d'Ismaïla à Dakar, qui voulait en savoir plus sur les formations en ligne. Parce que évidemment, vous nous mettez l'eau à la bouche avec ces écoles qui sont maintenant, vous n'êtes pas les seuls, il y a l'école 42, il y a simplon.co, donc tous les deux vous représentez ces deux écoles. Il y a d'autres écoles qui se sont montées ces deux dernières années. C'est tout récent. Et simplon.co, vous lancez aussi une formation à distance.
Ouais, on en est au deuxième chapitre là. C'est-à-dire qu'on l'a fait l'année dernière, on l'a refait. Et en gros, il suffit de taper formation à distance simplon et on trouve. Donc il y a des versions payantes, des versions pas chères pour les personnes en demande d'emploi, des versions gratuites dans certains cas. Et voilà, donc ce sont les simploniens qui font des exercices en s'appuyant sur les contenus de notre partenaire Open Classroom, qui propose tout un tas de cours, les MOOC comme on appelle ça, le e-learning, les cours en ligne. Mais aussi, je conseille des pour les francophones, il y a quelques ressources gratuites comme Code Academy, qui est une partie gratuite, donc Code Academy. Il y a Open Classroom, donc notre partenaire. Et faut regarder des technologies comme Bubble, comme la bulle, .is, qui permet de faire des sites et des applications sans coder. Et ça, il y a des gens qui peuvent accrocher
sans savoir coder, donc.
Exactement, et on peut aller assez loin avec ce genre de choses. Ouais. Donc voilà.
Oui, savoir coder, il faut un prof, forcément.
Non, alors nous on a pas de prof par exemple à 42. On a une équipe pédagogique mais qui s'occupe de fabriquer ce qu'on pourrait appeler des cours mais qui en fait sont juste une présentation du projet, on fait un petit présentation du terrain, des techniques qui vont être utilisées dans le projet. En fait, on ne veut pas montrer à l'étudiant comment trouver on veut pas montrer la solution du prof. Donc on n'a pas de prof pour montrer sa solution. On demande à l'étudiant de lui, nous, chercher sa solution qui lui est propre, qui est innovante et qui va lui donner ce goût pour l'innovation et lui donner de l'intuition. Et du coup, on n'a pas de prof au départ pour le montrer et on n'a pas de prof non plus. À l'arrivée, c'est les étudiants qui vont s'évaluer entre eux. Ça leur permet d'avoir du feedback, ça leur permet d'apprendre à évaluer quelqu'un d'autre. Et donc, chaque étudiant va se faire évaluer plusieurs fois par plusieurs de ses camarades pour faire noter son projet.
Alors, les détracteurs de votre projet École 42 disent aussi que du coup, il n'y a pas beaucoup d'encadrement et que certes, il y a des jeunes qui sont très doués, mais qui sont aussi très paresseux, qui avancent vraiment très lentement sur des projets.
Alors, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Sur la vitesse d'apprentissage, c'est à eux de voir. On a des étudiants qui avancent plus vite. Là, on va sortir des étudiants là qui ont fini en 2 ans au lieu des 3 ans qu'on s'était donné pour les former complètement. On en a qui vont peut-être mettre 4 ans ou 5 ans.
On peut se faire renvoyer de l'école 42 après tous les tests qu'on a passés avec succès.
Non, alors on se fait pas renvoyer sur cette façon-là. Quand on a des étudiants qui ne viennent plus, qui ne font plus rien, on les voit, on discute avec eux de savoir si ça sert à quelque chose de les considérer encore comme faisant partie de nos effectifs. On veut pouvoir donner leur place aussi à quelqu'un qui va s'en occuper. Mais on n'est pas encore, on n'a pas la pression de devoir faire du ménage comme ça. Mais les étudiants font passent à autre chose. Ils ont aussi l'école est gratuite, mais au-delà de ça, ils ont une vie à mener. Et ils peuvent aller faire d'autres choses, travailler et trouver des. Si la formation ça marche pas avec eux, ils peuvent aller faire autre chose.
La particularité vraiment des écoles que vous représentez en France, et il y a d'autres écoles qui se montent aussi à l'étranger. Alors on parlait des États-Unis. Là pour le coup, c'est en général très cher. Mais vos écoles sont gratuites, accessibles sans condition de diplôme. On va le redire. Néanmoins, accessibles à la suite de tests qui sont difficiles, qui testent la motivation, le talent, la capacité de s'accrocher aussi sur des projets. Mais quel est le modèle économique de vos écoles respectives pour simplon.co?
Alors sur notre modèle de revenu jusqu'ici, on a eu à peu près un tiers d'argent public en moyenne, que ce soit la région Île-de-France, la French Tech, la France S'engage ou encore la BPI, France Active, SNCF Développement qui nous accorde un prêt participatif. Mais il y a une grosse partie d'autofinancement, notamment par la mise en posture professionnelle de nos apprenants ou des anciens apprenants pour qu'ils gagnent leur vie. À savoir que, par exemple, on a des contrats de sponsoring et de prestations de type formation, production de sites et d'applications, événements avec tout un tas de partenaires comme Orange, Microsoft, SAP, La Poste, Allianz, Bayard.
Donc vraiment travailler main dans la main avec les entreprises.
Exactement. Quand je vous disais que il y avait le comité exécutif d'Orange qui avait été formé par des simploniens qui, pour partie d'entre eux, n'avaient pas le brevet des collèges, et que ça s'est très bien passé. On fait aussi ce genre de choses, par exemple, en ce moment, avec des salariés en reconversion de La Poste qui veulent aller vers du numérique et qui sont formés par des simploniens.
Alors, question de Jean-Luc à Port-au-Prince en Haïti, qui dit: quel est votre modèle économique? Est-ce que en Haïti, ça serait possible vu qu'on a très peu de moyens? Vous m'avez dit, j'ai 45 secondes pour répondre et ça sera fait.
On a des contacts, d'ailleurs, il me semble, en Haïti. Il faut que je vois qu'on a associé Frédéric Bardot. Mais le fait est que, aujourd'hui, depuis le Fafiec, un OPCA nous a sélectionné pour être certifiant. Et ça, ça simplifie vachement les choses quand on arrive sur un nouveau territoire. Donc, s'il y a des contacts en Haïti qui veulent discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via le site.
Voilà, vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Bien évidemment, aussi, on transmet tous vos messages. Merci à vous deux. Sébastien Benoît, responsable technique et pédagogique de l'école 42 qui est située à Paris. Rendez-vous dans quelques années pour savoir aussi quelle est l'insertion professionnelle de vos jeunes. Erwan Kézard, cofondateur de Simplon.co. Merci à toute l'équipe. Lundi, 7 milliards de voisins. Bouclez vos ceintures. On parlera de la sécurité aérienne. Avec l'augmentation du trafic mondial et après une série de crashs ces derniers mois, tantôt spectaculaires, tantôt inexpliqués ou inédits, comme le suicide d'un pilote, l'avion va-t-il rester le moyen le plus sûr de voyager dans les coulisses des compagnies aériennes? On accueillera François Nénin, journaliste qui publie un livre qui s'appelle « Oups, on a oublié de sortir le train d'atterrissage » à lundi.